CFM. CFM. À qui le tour? 17h30, 19h. CFM. Le sport. Tous les sports. CFM.
Lundi sport, bonjour à toutes et à tous. On a étendu sur tout le nord Midi-Pyrénées notre grand studio virtuel. Dans les studios à Rodez, il y a David Dumont, Jean-Claude Vigroux et David Fabier. Salut les gars. Je vous assure qu'ils y sont. Dans les studios de CFM Caylus, il y a Jean-Claude Defarge. Salut Jean-Claude.
Salut Rémi, salut à tout le monde.
Ça va bien?
Ça va très bien.
Et ici, dans les studios à Montauban, il y a Jennings. Salut Jennings.
Bonjour tout le monde.
Notre chroniqueur handisport est toujours prêt à dégainer quand il s'agit de faire un bon mot aussi sur le foot, puisque le PSG forcément gagne tout le monde. Hein, et que tu es fan du PSG.
Voilà. Et en attendant le match de demain face à Leverkusen... Je suis en pleine forme là.
Bon, t'es en pleine forme.
Ah là, il me tarde.
À fond, en plus, tu vas nous annoncer les très bons résultats des Pandas, l'équipe de rugby fauteuil de Montauban tout à l'heure. On s'intéressera également à l'occasion de la sortie mercredi dernier du film avec Benoît Paul Vorde, Des rayures du zèbre, qui raconte l'histoire d'un sélectionneur qui part en Afrique rechercher la future crème du football dans les rues de la Côte d'Ivoire. On s'intéressera à une association belge qui s'appelle Samilia, la Samilia Fondation, qui elle, et on en discutera avec sa directrice Sophie Gicler, qui elle, lutte contre les fausses promesses que l'on peut faire à ces joueurs qui parfois sont recrutés par des escrocs. Voilà, donc on s'intéressera aux joueurs de foot africains. Comment font-ils pour arriver en France? Voilà, j'entends quelques petits soucis techniques avec Rodez. Vous êtes là les gars? Non.
Oui.
Ah si, non, ça c'est Caylus. Eh bien écoute, on va commencer avec toi Jean-Claude Defarge si tu veux bien. Allez.
Amis de Rodez.
Non, il y a un petit souci visiblement.
Vas-y Jean-Claude.
Allez Jean-Claude, c'est parti pour quelques résultats.
Je voulais te dire en avant-propos là que j'ai essayé d'avoir mes amis auvergnats de Clermont-Ferrand suite au magnifique saut de Renaud Lavillenie. Alors l'Auvergne est en feu. Alors on m'a expliqué que il y avait un changement dans les classements des sommets du Puy-de-Dôme, du département du Puy-de-Dôme. Avant il y avait le Puy de Sancy à 1885 mètres qui était classé premier, le Puy-de-Dôme qui monte à 1465 mètres qui était classé deuxième. Alors maintenant ils ont changé le classement. C'est Renaud Lavillenie à 6m16 qui est premier, le Puy de Sancy est deuxième à 1885 mètres et le Puy de Dôme est troisième à 1465 mètres. Voilà.
Bravo.
C'était un petit mot pour nous rappeler qu'on a un champion du monde du saut à la perche.
Allez, donne-nous quelques résultats en top 14 et Pro D2. Et je rappelle qu'on parlera, on se racontera un petit peu comment on vit les JO, mais ce sera tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission aux alentours de 18h15.
Ouais, alors donc il y avait donc une journée de top 14 où certains internationaux n'avaient pas le droit de jouer. Alors il faut dire que les premiers du classement ont pratiquement tous perdu. On va dire que Castres, qui était troisième, a été perdre à Toulon par 19-13. Le Stade français, qui était second, était allé perdre à Brive par 28-12. Et Clermont est allé perdre à Grenoble par 16-13. Et ce match a été l'occasion d'une grosse polémique concernant l'arbitrage du fameux arbitre Cardona qui avait été un peu engueulé, on va dire, par les dirigeants de Toulon, qui a encore fait des siennes puisqu'il a refusé trois essais au Montferrandais, dont un qui était largement valable. Et puis derrière, il a eu des actes de carton qui n'ont pas plu à tout le monde. Donc voilà, c'est encore une journée où l'arbitrage a été un peu soumis à ballotage, on va dire. Perpignan a été humilié à Montpellier, alors par un score sans appel par 50-19. Bayonne perd au Racing par 18-8. Au classement, on trouve Clermont qui, malgré sa défaite, reste premier avec 55 points. Le suivent Montpellier grâce à sa belle victoire sur Perpignan est classé deuxième. Le Stade français troisième, Castres quatrième et Toulon cinquième. En fin de classement, Bayonne est douzième. 13e Oyonnax et Biarritz qui a perdu sur son terrain contre le Stade Toulousain. Et ben Biarritz est déjà en Pro D2 avec 17 points d'écart sur l'avant-dernier. Donc aucun espoir pour revenir. Il y avait aussi de la Pro D2. Alors la Pro D2 est une victoire à l'extérieur, c'est Mont-de-Marsan qui était gagné à Auch qui se termine. Aurillac a gagné contre Carcassonne sur sa pelouse par 18-12. Match nul d'Albi à Colomiers. Un match nul qui fait du bien aux Albigeois par 6-6. La Rochelle, dans le match des leaders, La Rochelle a battu Pau par 28-23. On peut dire aussi que Lyon est pratiquement un pied en top 14 avec sa large victoire sur Béziers par 52-5. Enfin, gros duel des postulants à la montée entre Narbonne et Agen. Narbonne est resté maître sur sa pelouse par 33-24. Ce qui donne au classement premier Lyon, deuxième La Rochelle, troisième Agen, quatrième Pau et cinquième Narbonne qui sont tous barragistes. Et en fin de classement, on trouve Bourg-en-Bresse qui n'a pas joué parce que le match a été remis pour des raisons de terrain impraticable. 14e donc Bourg-en-Bresse, 15e Auch et 16e Carcassonne. Ces trois équipes vont se tirer la bourre pour la descente en Fédéral 1.
Merci Jean-Claude. On change de studio et dans nos studios à Rodez, ça y est, on les a récupérés. David Dumont, Jean-Claude Vigroux et David Fabier. Salut les gars.
Bonjour à tous.
Salut, salut.
Alors. Désolé. On commence par le foot.
Bah oui, la Ligue 1 hein, ce week-end, Jean-Claude.
Bien oui, on jouait la 25e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain reste en tête après sa victoire sur son terrain face à Valenciennes par 3-0. Monaco ne s'est pas laissé décrocher. Il a remporté la victoire avec 2 buts de James Rodriguez. Et a battu donc Bastia sur le terrain de Furiani par 2-0. Montpellier se ressaisit bien, l'effet Courbis fait son effet puisque les Montpellierens sont allés faire le nul à Rennes 2-2. Lille a du mal à émerger et a obtenu quand même à la toute dernière minute le match nul à Evian 2-2. Et hier soir, il y avait le grand match qui opposait dans un stade de Saint-Étienne, le stade Geoffroy Guichard, archi-plein. Eh bien, Marseille et Saint-Étienne se sont quittés sur un score de 1-0. C'est un ancien Marseillais qui a marqué le but pour Saint-Étienne. C'est Brandao qui, de la tête, a trompé le gardien Mandanda de Marseille. Et les deux équipes se sont quittées sur le score de 1-0. Donc, toujours en tête, Paris Saint-Germain, suivi de Monaco à 5 points. Lille reste 3e avec 45 points. Saint-Étienne est 4e avec 42 points. Et Marseille est 5e avec 40 points. Une bonne remontée à signaler. C'est celle de Lyon qui revient à 40 points à égalité avec Marseille suite à sa victoire sur Ajaccio à Gerland par 3-1.
Un peu de JO peut-être, David?
Et ouais, les Jeux Olympiques, ça se poursuit à Sochi, enfin ça se poursuit à moitié, hein, puisque aujourd'hui on attendait notamment côté français le snowboard cross masculin, on a des espoirs de médailles, et puis on attendait aussi surtout la mass start en biathlon, la course en peloton. Avec Martin Fourcade en lice pour une 3e médaille d'or, c'est repoussé encore une fois, ce coup-ci en raison du brouillard du côté de Sochi en Russie. Aujourd'hui, à noter tout de même que les filles ont pu participer à la mass start de biathlon. Et côté français, ça s'est pas bien passé, on l'entendait dans le flash, Anaïs Bescon, la meilleure d'entre nous, a terminé à la 11e place. On attend ce soir une belle performance en danse libre, patinage sur glace donc, avec le duo français Nathalie Péchala et Fabien Bourza. Ils sont 4e actuellement au classement, ils visent une médaille, peut-être une médaille d'argent, une médaille de bronze, on serait bien content puisque côté français, on en est à 6 médailles d'or, hein. Un peu plus de 6 médailles, pardon, au total, pas tout en or malheureusement, un peu plus de la moitié de ces Jeux Olympiques, 2 en or et 4 en bronze avec une belle moisson ce week-end, 2 hier en bronze en ski de fond, le relais de ski de fond masculin, puis médaille de bronze aussi pour le snowboard cross féminin, un petit peu de bol, mais enfin des fois il en faut pour remporter une médaille.
Beaucoup de bol même.
Justement, on en parlera tout à l'heure, si vous voulez bien, du JO, ce sera notre deuxième sujet. Vous nous raconterez comment vous vivez ces Jeux Olympiques, les uns et les autres. Un petit peu de musique ou de pub, je ne sais plus. Et puis on se retrouve en compagnie de Sophie Gicler, responsable de Samilia Fondation, qui lutte contre l'exploitation des footballeurs africains.
CFM, CFM sur le Grand Rodez. 107.9. 107.9. CFM.
Vous savez que tu parles comme ça, mec ?
Le mercredi, 18h, 18h30, c'est cinéma. Bonjour Jean-Paul Salomé. On appelle des programmateurs, des réalisateurs, des comédiens.
Alors j'ai eu l'idée, avec Travelling, de faire peut-être un film sur la vie à la belle époque, afin de mettre en valeur tous les monuments d'Albi.
Et tous les mercredis, c'est surtout l'occasion pour vous de gagner vos places de cinéma pour le multiplex de Montauban et de Rodez. Comment faire ? Rendez-vous sur cfmradio.fr et laissez-nous votre critique de film.
Le 22 février, événement incontournable au village vacances de Quélus, ouverture du pub Dancing à partir de 19h30 pour l'apéritif. Venez nombreux pour profiter d'une ambiance de folie avec les classiques du rock, Led Zepp, ACDC, mais aussi du disco et du rock irlandais pour passer une super soirée. Repas 13€ avec salade, truffade, confit, fromage et dessert. Appelez Laurent pour réserver au 06 18 07 40 97. Ne manquez pas l'ouverture du pub Dancing au village vacances de Quélus. Ouvert toutes les semaines le vendredi, samedi et dimanche.
Bonjour Rosendo.
Bonjour Lysiane et bonjour Sylvie.
Bonjour Rosendo, bonjour Lysiane. 15 ans de photo passion, ensuite photo professionnelle plutôt 5 ans puisque je me suis installée il y a 5 ans de ça.
Bon, je suis une enfant de mai 68 et du féminisme et de ces luttes-là, donc la famille passée après la réalisation personnelle et l'engagement politique.
Et je te pose aussi ta question un peu pour me remettre moi-même en cause, c'est pas une émission sur Rosendo.
Et je me souviens bien que j'avais signé des pétitions pour l'abolition de la peine de mort.
Ben c'est aussi peut-être parce qu'en Ukraine, les études d'architecture se passent un peu différemment. Donc les études, ça dure 6 ans. Et les premières 4 ans, la formation artistique est très forte. On a beaucoup de dessins, de peintures.
Puisque bon, je suis plus évidemment interprète qu'auteur-compositeur.
Musique, cinéma, littérature, photographie. Les rendez-vous de Rosendo tous les dimanches à 13h. Rediffusion le mardi à 23h. Les rendez-vous de Rosendo, un artiste, une rencontre, une heure.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
Lundi sport, tous les lundis soirs, 17h30, 18h30. On s'intéressera aux résultats locaux un petit peu plus tard dans cette émission. Il y aura des sons, notamment de Rodez, avec le capitaine Ralph Territoaya. Pardon pour son nom, hein, que j'ai un petit peu écorché. Mais là, tout de suite, on a Sophie Jekeller au téléphone, Rémi.
Oui, alors, Sophie Jekeller, pourquoi est-ce qu'on l'appelle? Parce qu'elle est la directrice de l'association Samilia. Et c'est une association qui lutte contre l'exploitation des footballeurs africains. Alors pourquoi on a eu l'idée de l'appeler pour cette édition de Lundi Sport? Tout simplement parce qu'est sorti sur les écrans mercredi dernier un film d'un réalisateur belge qui s'intitule Les rayures du zèbre, un film où l'acteur principal est joué par Benoît Poelvoorde et il joue le rôle d'un recruteur qui part en Côte d'Ivoire recruter dans les rues de Côte d'Ivoire des jeunes footballeurs sénégalais qui ont le rêve de l'Europe tous dans les yeux et qui espèrent bien devenir de très grands footballeurs grâce à ce recruteur. Et pour quelques-uns qui vont avoir la chance d'être élus, beaucoup vont rester sur le carreau et certains vont même se faire exploité par de véritables escrocs, puisqu'il y a des filières hein, réellement qui exploitent ces personnes. On voulait demander à Sophie Jekeller comment était née Samilia Foundation. Bonjour Sophie.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous depuis la Belgique.
Mais c'est avec plaisir.
Alors, d'abord, il faut dire que votre fondation ne travaille pas exclusivement que sur... C'est un des projets de votre fondation, hein, mais vous luttez de façon plus générale contre toutes les formes d'esclavagisme, hein, on va dire, à travers le monde.
Oui, nous nous occupons aussi bien de victimes d'exploitation sexuelle que d'exploitation de mendicité forcée et d'exploitation économique. Et c'est dans ce dernier cadre que nous avons été interpellés par la situation de dizaines, voire de centaines de jeunes joueurs africains qui ont échoué chez nous en Belgique, mais le phénomène existe également en France, après avoir été abusés par des trafiquants. Ce ne sont même pas des agents, ce sont des personnes qui se présentent comme telles, mais qui sont des trafiquants et qui n'ont vraiment pas de mal comme vous l'avez expliqué, à abuser les familles et à leur extorquer des sommes d'argent conséquentes en leur faisant miroiter une place dans un club européen qui évidemment n'existe pas. Et une fois qu'ils arrivent en Europe, dans le meilleur des cas, ils sont livrés, laissés livrer à eux-mêmes, et dans le pire des cas, ils sont exploités dans des filières qui les forcent à exécuter des travaux dans le secteur horeca, dans le secteur automobile, et donc on peut vraiment parler de traite des êtres humains.
Et alors pour lutter contre ça, je sais que vous avez une équipe actuellement de bénévoles qui est partie faire une mission en Côte d'Ivoire.
Oui, nous abordons le problème de deux manières différentes. D'abord en faisant de la sensibilisation chez nous, sensibilisation des autorités judiciaires pour que ce phénomène soit mieux appréhendé. Et surtout, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait absolument faire de la prévention dans les pays d'origine, parce que ces jeunes joueurs qui se trouvent chez nous n'étaient vraiment pas au courant de l'existence de ce type d'escroquerie. Et donc, nous avons eu la possibilité d'envoyer une équipe de 4 jeunes bénévoles qui sont journalistes, criminels, criminologues, sociologues et éducateurs, qui vont sensibiliser à Abidjan les écoles de football, les académies, qu'elles soient enregistrées ou non, parce que j'étais à Abidjan l'année dernière, mais c'est une ville qui joue au football du matin au soir. Ils sont des milliers, voire des centaines de milliers de jeunes. Et donc, en collaboration avec les autorités ivoiriennes, ces 4 jeunes de la Fondation Familia vont développer tout un programme de prévention avec des outils que nous avons développés spécialement pour cela. Et bien sûr, nous avons une échéance qui est le 5 mars, puisqu'en prévision de la Coupe du Monde, l'équipe nationale belge va affronter à Bruxelles l'équipe nationale ivoirienne. Et donc, c'est vraiment une opportunité pour faire une sensibilisation accrue dans les deux pays.
David Dumont ?
Oui, là où vous parliez d'Abidjan, la Côte d'Ivoire, il y a d'autres pays africains qui sont particulièrement touchés par voilà, ces exploitations de jeunes qui rêvent de devenir footballeurs pro.
Oui, après la Côte d'Ivoire, notre équipe va se rendre au Bénin, ensuite au Sénégal. Mais il y a d'autres pays, évidemment, comme le Cameroun, le Togo, le Gabon, le Ghana. En fait, la plupart des pays d'Afrique occidentale sont touchés.
Et, Jean-Claude Vigroux, est-ce que tu peux me citer quelques noms de footballeurs comme ça, issus de l'Afrique, qui jouent en Europe et qui sont
mais
bien
qui,
connus
qui jouent je vois pas de suite là, mais je me rappelle à l'époque d'un jeune joueur qui était venu à Saint-Étienne, c'était Salif Keita, qui venait de Bamako, qui avait été découvert là-bas et qui a fait une brillante carrière à Saint-Étienne. C'était le meilleur joueur étranger d'ailleurs à l'époque de l'équipe de Saint-Étienne. Il y a beaucoup de joueurs à Rodez. On a eu des joueurs qui venaient du Sénégal, qui venaient. Moi, je suis allé au Sénégal et il faut voir combien de fois j'ai été interpellé dans la rue dès qu'ils voient un blanc. En fait, ils vous demandent si vous occupez pas d'un club de football. Ils vous sollicitent carrément pour voir si vous pouvez pas les placer dans un club en France.
Et alors évidemment, ça fait rêver, on peut imaginer tous ces jeunes là-bas qui rêvent de devenir riches grâce à leur talent de footballeur. Quels sont les outils que vous mettez en place, dites-moi, dans votre association Samilia, Sophie Gikeler, pour justement faire prendre conscience à tous ces jeunes que c'est pas forcément gagné d'avance?
Et bien justement, on a développé un outil très simple qui est une brochure sous la forme d'un roman photo. Parce que les jeunes là-bas ne sont pas tous capables de lire des textes soutenus. Et donc, c'est un roman photo qu'on a développé avec une équipe du championnat ivoirien, l'équipe de Koumassi, dont plusieurs joueurs avaient été victimes de ce type de trafic vers l'Algérie. Et 3 jeunes travailleuses sociales, l'année dernière, sont allées sur place pour mettre cet outil vraiment au point. Maintenant, on l'a imprimé à plusieurs milliers d'exemplaires et il va servir évidemment d'outils de référence du travail de prévention que notre équipe va mener sur place. De même que le film, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de le voir, un film qui s'appelle « Comme un lion » de Samuel Collardet, qui est sorti, je pense, en France l'année dernière et qui explique vraiment la façon dont un jeune joueur sénégalais s'est fait prendre au piège en fait d'un recruteur malhonnête. Et ce film donc nous permet aussi de faire de la sensibilisation de manière plus imagée. Et après, s'ensuit évidemment toute une séance d'échange avec les jeunes pour vraiment leur faire prendre conscience des risques qui existent. Nous avons aussi quelques images que nous avons, ou un mini-reportage que nous avons tourné ici à Bruxelles sur les conditions dans lesquelles sont contraints de vivre ceux pour qui le rêve n'était pas au rendez-vous. Et nous avons aussi le témoignage d'Aloïs Nong, qui est un grand joueur camerounais qui a joué chez nous dans une de nos meilleures équipes, qui est le Standard de Liège, qui maintenant joue à Valence et qui a été victime, lui, entre 16 et 18 ans de ce type de trafic et qui en témoigne particulièrement bien.
Est-ce que vous avez vu le film Les rayures du zèbre ?
Mais oui, tout à fait. D'ailleurs, nous sommes très, très heureux de participer maintenant à la diffusion de ce film en Belgique. Nous avons des actions en commun avec les producteurs. Et c'est un film qui pose vraiment les bonnes questions et qui montre effectivement, comme monsieur l'a dit tout à l'heure, combien des parents sont prêts à mettre leurs enfants dans les bras de n'importe qui pour les emmener dans un club en Europe. Et donc, on comprend mieux pourquoi certains trafiquants n'éprouvent aucune difficulté à effectuer ce type de trafic. Mais donc nous plaidons aussi pour une meilleure conscientisation des ambassades et des consulats dans les pays d'origine, de manière à ce que les visas délivrés le soient avec davantage de pertinence ou de réflexion, parce que c'est tellement facile à l'heure actuelle qu'il doit exister des corruptions ou des collaborations, mais il y a des outils à renforcer évidemment pour éviter ce type de trafic.
Mettre en place des garde-fous. D'autant que dans Les rayures du zèbre, ce qui est intéressant, c'est que le héros central du film, enfin ou l'anti-héros, je sais pas comment il faut l'appeler, hein, qui est joué par Benoît Poelvoorde, n'est pas vraiment un escroc, c'est juste un recruteur de talent, mais qui est un petit peu sur le retour et qui prend des risques finalement et qui fait prendre des risques aux jeunes qu'il recrute quelque part. Hein. C'est aussi ça, même si c'est pas un escroc, ça a le mérite de montrer aussi cet aspect-là des choses où tout n'est jamais forcément tout blanc ou tout noir.
Oui, évidemment. Mais j'allais dire que je connais le recruteur qui a inspiré le rôle dans le scénario et qui est un homme qui justement effectue son travail avec énormément d'humanité, je veux dire. Et il me disait aussi que ce sont des décisions très difficiles à prendre quand de votre décision dépend la vie d'un jeune, parce que amener un jeune africain en Belgique ou en Europe, il faut bien se rendre compte que c'est le déraciner totalement de son milieu d'origine et que si la greffe ne prend pas ou si l'expérience échoue, c'est une responsabilité très grande. Et donc il y a des agents qui travaillent, j'espère la plupart, avec beaucoup de sens de responsabilité et de respect par rapport aux jeunes, mais évidemment c'est un milieu où l'argent est prépondérant, où il y a d'énormes sommes en jeu, et les tentations évidemment existent de prendre le plus de risques possible.
Jean-Claude Desfarges, une dernière question peut-être ?
Oui, vous connaissez de ces jeunes qui ont réussi quand même, malgré tout ces trafics, à devenir internationaux belges ?
Il y a Louis Nong, c'est le seul, mais le problème c'est que la Belgique, il y a 10 ans, justement pour essayer d'éviter ce type de trafic, a voté une loi qui oblige les clubs qui souhaitent engager un joueur extra-communautaire sous contrat professionnel à lui payer un salaire annuel de 80 000 euros, ce que la plupart des petits clubs sont incapables de faire, parce que c'est quand même un risque de miser sur un joueur qui en fait n'a pas encore fait ses preuves. Et donc malheureusement, ceux qui pourraient devenir de grands champions n'ont pas la possibilité d'être engagés dans un club et de pouvoir mener une carrière progressive. Donc, justement, nous travaillons aussi avec les autorités politiques de manière à pouvoir changer cette loi et abaisser le seuil de cette rémunération que la plupart des joueurs africains ne demandent pas et qui les empêche d'aller plus loin dans leur carrière.
Ben voilà, Sophie Giclair, on peut en savoir bien plus sur votre association et toutes vos actions, que ce soit autour du foot ou autour de plein d'autres actions, sur samilia.org. Voilà. Merci d'avoir été avec nous sur CFM Radio pour en parler. Au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.
L'info en plus, David Dumont.
Bon, on va rester dans le football avec Olivier Giroud qui en fait de belles. Hein. Olivier Giroud, l'attaquant d'Arsenal, ancien joueur de Montpellier, joueur de l'équipe de France, qui s'est retrouvé en slip et surtout en une du journal The Sun ce week-end. C'est une photo d'un mannequin, Célia Kay, qui a passé la nuit avec Olivier Giroud. Alors le petit souci, c'est que Olivier Giroud est par ailleurs marié et papa d'une petite fille qui n'a même pas un an. Quand il a découvert lui aussi cette photo torse nu en slip et en forme, j'ai envie de dire, en plein milieu de la nuit, en une des journaux anglais, il a fait 2 Twitter pour s'excuser auprès de sa femme. Ce qui est quand même poli de sa part, hein. Et s'il s'est excusé auprès de son club, ses partenaires, je parle là des partenaires de football, voilà, Olivier Giroud bien embêté, et Olivier Giroud qui par ailleurs est un chrétien convaincu, j'étudie un peu la question autour d'Olivier Giroud, puisqu'il a par exemple tatoué sur son bras une phrase de la Bible, je vous la cite, peut-être pas en latin, « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. » Lui, il devait lui manquer une copine ce soir-là. Allez taper Célia Kay, hein, sur Internet. Elle a des arguments, la petite.
Le Seigneur est mon berger. Lui, il avait le bâton des bergers, pour le coup.
Bravo.
Non, mais c'est vrai que la photo est avantageuse.
Il est tatoué, lui aussi. Hein. Ça me fait penser. Il ressemble beaucoup à... celui qui était...
Tu parles de qui, là? David Fabier?
Non, de Giroud. Ah. Olivier Giroud, je trouve, il a
est tatoué, David Fabier.
Il a une tête qui ressemble au mec du PSG, à l'anglais du PSG. Comment il s'appelle?
David Beckham.
À David Beckham, qu'on voit actuellement sur une pub partout sur les cinémas, où il court partout et il arrive à poil à sa séance photo.
Lui aussi. Aussi, tu vois, c'est comme quoi... c'est un mystère. Hein.
Qui a voulu l'imiter, mais il s'est fait griller par sa femme.
Pardon, Jean-Claude Desfarge.
Il paraît que Beckham est en train de monter un club de football à Tahiti.
Oui, il disait que c'est à Tahiti ou à Miami.
Miami,
plutôt. Oui. Miami.
Attends, si c'est moi qui vais t'apprendre des trucs sur le sport, ça va plus.
Il m'intéresse pas trop là, tu sais. Non, j'ai entendu qu'il montait là-bas. Il a dû trouver lui aussi des. De quoi lui remonter la moelle là, du côté de Miami.
Oh.
C'est joli, Manny.
Oh là là, de quoi lui remonter la moelle. Quelle poésie ce soir poète, dans cette émission.
Ouais. Pourtant, il a une très jolie femme. Hein.
Ah bah oui.
Oh bah, Giroud aussi, hein, parce que je suis allé chercher la photo de sa femme sur Internet pour comparer. C'est un peu le même genre d'ailleurs. Mais l'autre est un peu plus équipé.
Consistante. Ouais,
officiel.
Voilà. Alors, j'essaye de voir la photo de Célia. Aïe, 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 oui, quand même, ouais.
Mais... K-A-Y, hein, Célia Kay, K-A-Y.
Ouais.
C'est mannequin, hein. Je te dis.
Moi, la natation est souvent maillot de bain. Hein.
Beau profil de dos, hein, quand même. Hein. Aïe, aïe, aïe. La suite de lundi sport. Du sport, messieurs, dames. Oui, du sport. On va parler des Jeux Olympiques tout à l'heure. On va s'intéresser évidemment à l'USM avec un reportage signé Frédéric dans les vestiaires de l'USM. On parlera foot aussi avec un reportage sur les bandes de touche, je crois, du RAF. Hein. Et puis on s'intéressera également à l'handisport avec Jennings et on passera un coup de fil à Benjamin de Cœur Handisport. À tout de suite.
CFM. Il est 18h. Il vous tarde de vous mettre au chaud? Trouvez la solution avec les maîtres du feu à Montauban. Les maîtres du feu, offrez-vous l'excellence.
CFM, toute l'info Nord-Midi-Pyrénées.
Bonsoir à tous. L'Agence régionale de santé de Midi-Pyrénées veut départementaliser la régulation des médecins régulateurs de Midi-Pyrénées qui n'ont pas décroché du week-end pour ce qui est des appels de leur permanence de soins ambulatoires. Un mouvement qui a commencé ce matin et s'est achevé aujourd'hui et au cours duquel ils ont invité les patients à appeler le 15. Les médecins estiment le système dangereux pour les patients et inefficace et impossible à évaluer. L'optimisme prudent de la Banque de France pour l'économie de l'Aveyron pour 2014. L'année s'annonce encore très difficile pour le secteur du BTP. Et ce notamment à cause du calendrier électoral qui incite à la prudence du côté des élus pour l'industrie et les services. L'année 2014 s'annonce sur la lignée de 2013 avec une croissance comparable à l'an passé. Encore une voiture retrouvée incendiée à Cap-Dénac. Cette voiture appartenait à une résidente et lui avait été dérobée il y a une quinzaine de jours. Ce matin, elle a été retrouvée brûlée route de Saint-Julien-d'Empare, mais apparemment les auteurs ne se sont pas arrêtés là. Après avoir mis le feu au véhicule, ils en auraient dérobé un autre dans le secteur durant toute la journée d'hier. Les hommes de la communauté de brigade de gendarmerie de Cap-Dénac, renforcés par ceux de la compagnie de Villefranche, ont mené une enquête de proximité. L'homme n'est pas le seul à pâtir des caprices de la météo. Les oiseaux ne diraient pas le contraire. Si la douceur de l'hiver est un point plutôt positif, c'est le cumul de pluie qui commence à inquiéter, notamment du côté de l'espace naturel sensible de l'île de Beaucaire face à Moissac. Et notamment parce que les petits oiseaux qui vont arriver prochainement ne trouveront alors pas de petits insectes pour se nourrir et vont alors mourir de faim. On termine avec du sport et du rugby. C'est tout bon pour le Stade Rodez Aveyron. Le 15 ruthénois a remporté son duel face à Lavaur hier en championnat de Fédéral 1. Une victoire 19-8 qui fait monter les Aveyronnais au 5e rang de la poule 3. Lavaur est avant-dernier. Un groupe toujours dominé par Montauban qui a enchaîné sur une 14e victoire consécutive. Excellente fin de journée à vous en CFM.
Le sport, tous les sports, CFM.
Lundi sport, la suite et on commence illico presto avec les résultats locaux internationaux du week-end, pardon. En rugby, pardon, Fédéral 1, 2 et 3. Et je te l'annonce, Jean-Claude Desfarge, nous aurons un reportage dans les vestiaires de l'USM. Mais on commence avec les résultats, vas-y.
Et on va partir à Rodez, si tu le veux.
Ah bah je veux bien, mais moi je veux bien. Rodez
Bah oui, Rodez libéré, Rodez vainqueur. Hier à Polignon face à Lavaur, c'est un match important pour le SRA qui s'est imposé 19-8. Contre cette équipe de Lavaur qui est en bas de tableau, il s'agissait d'assurer le maintien en cas de victoire. C'est pas mathématiquement fait, mais enfin dans les têtes c'est fait. Hein. Je peux vous dire, le coach, le président, les joueurs, hier pour eux la victoire était synonyme de maintien en Fédéral 1 et puis synonyme aussi maintenant d'espoir, pourquoi pas, de participer aux phases finales, c'est-à-dire de terminer dans les 4 premiers à l'issue de la saison régulière. Pour ça, il faudra quand même jouer un petit peu mieux qu'hier à Paul-Lignon, puisque même si le SRA s'est imposé face à Lavaur 19-8, ça a été compliqué. On écoute le capitaine du stade ruthénois, Ralph Territoria.
Je pense que, comme on dit, c'était très... c'était stérile quand même. On nous a dit de ne pas jouer avec la pression, mais on s'est quand même mis. Et bon, on n'a pas su gérer encore nos temps forts, quoi. Voilà, ouais. Après, bon, l'arbitre, je pense qu'il y a du 50-50 dans les fautes, dans les erreurs. Mais après, il a été dépassé, quoi. On pouvait plus lui parler. Mais après, je pense que sur le défi physique, on y était. On avait tout ce cœur à, voilà, comme on en parlait, à se racheter du match d'Andaï. Et voilà, le mot d'ordre, aujourd'hui, c'était l'envie et le rachat, quoi. C'est sûr, ça a pas été de grand, il n'y a pas eu de grandes envolées, hein. Mais l'essentiel a été fait, ouais. Enfin, après, ça a été énorme, quoi. Voilà, tous les garçons y étaient. Je veux dire, personne, tout le monde y était dans l'engagement et, enfin, continuant à se lancer, quoi.
Voilà, on va continuer sur cette lancée du côté de Rodez et se déplacer du côté de Tulle le week-end prochain. Tulle qui joue aussi pour le maintien en Fédéral 1, hein, Jean-Claude.
Jean-Claude? Vigrou? Non? Je sais pas.
Desfarge.
Desfarge?
On l'a perdu.
On l'a perdu!
Bon, en tous les cas.
Il est là, d'ordre.
Le SRA qui jouera donc le week-end prochain à Tulle, avec l'espoir d'aller chercher une victoire et d'accrocher cette 4e place, puisque actuellement le SRA est 5e de sa poule à quelques points donc des 4 premiers. Une poule largement menée par Montauban, hein, qui a empoché, on l'entendait dans le flash, son 14e succès de rang cette saison, et je crois bien que là ils ont mis un 0 en face, hein, Jean-Claude.
50 et quelques à 0, je crois, oui.
Voilà, donc Montauban droit vers la Pro D2. Comme aurait dit Jean-Claude Desfarge, il était avec nous par téléphone.
Il est avec nous, Jean-Claude Desfarge.
Ouais, je voulais dire que Montauban est qualifié, mais Montauban n'est pas encore en Pro D2 parce qu'il va falloir faire les phases finales. Mais ça, c'est sûr qu'il y a 4 matchs de la fin, 14 matchs, 14 victoires. Avec l'écart qu'ils ont par rapport aux autres équipes des autres poules, ils sont d'ores et déjà qualifiés pour les phases finales. 40-0, c'est une démonstration de rugby, hein, je pense. Hein.
C'est maintenant le rugby?
Oui.
Alors, c'est maintenant pour les résultats. C'est pour toi, hein, Jean-Claude, là.
Alors, donc, c'est parti. Donc, je vais vous parler de la fédérale. Donc, Montauban, 14e match, 14e victoire, 41-0 contre Andaï. Et rien à dire, c'était une démonstration de rugby. Montauban est déjà qualifié pour les phases finales. Rodez, qui recevait Lavaur, a fait un match, avec le match qu'il fallait gagner, par 19-8. Mais par contre, la première mi-temps n'a pas été terrible, hein, David. Je crois qu'il y avait 3-0 à la mi-temps.
Oh là, moi j'ai été même en train de regarder internet sur mon téléphone tellement c'était super. Oui, 3-0.
Et alors heureusement que Rodez a eu l'idée de marquer un essai dans les toutes premières minutes de la deuxième mi-temps pour se mettre à l'abri, parce que Lavaur ils en veulent, hein, parce qu'ils ont marqué un essai en fin de match, je pense.
Exactement, c'est le scénario, une bonne phase de Rodez derrière. On s'est dit que c'était gagné, bah non, c'est Lavaur qui a réagi. Je peux pas dire qu'ils ont fait peur à la fin, enfin ça a été plus compliqué que prévu.
Moi, je pense que Rodez doit aller gagner à Tulle le week-end prochain, parce que Rodez est cinquième. Ils ont un coup à faire pour se qualifier dans les 4 premiers et c'est pas gagné encore, hein. Il va falloir qu'ils s'accrochent.
Et ouais. Et Tulle qui a fait un bon résultat ce week-end à Saint-Jean-de-Luz.
Voilà. Donc je pense que tu as du son là en fin de match.
On l'a entendu, Jean-Claude, pendant que tu étais disparu.
Alors moi, si vous voulez bien, le tant qu'on en est à la fédérale 1, je voudrais vous faire entendre le son réalisé par Frédéric dans les vestiaires avec l'ancien capitaine de l'USM qui est venu en renfort sur ce match.
Alors, je suis en compagnie de David Penalva. David, une longue absence, bon, tout le monde le sait à Montauban. J'étais vraiment impressionné ce soir pour ton état de forme. Tu as fait tout le match. Comment tu te sens? Tu es plein fer, quoi.
Ouais, bon, là quand même, à la fin du match, là, ça commence à piquer parce que le terrain était lourd. Mais bon, c'est bien revenu, là. J'ai eu un petit temps d'adaptation, mais voilà, c'est revenu. Bon, je dirais pas comme quand j'avais 20 ans, mais c'est bien revenu, ouais, ça va.
Parce que tu en as à combien là? Tu as fait ton match entier la semaine dernière?
Semaine dernière, j'ai fait 40 minutes, et celui d'avant 80, je crois que c'est le troisième à 80 minutes. Donc ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, je suis content.
Ok, toi qui arrives en milieu de saison là, comment tu trouves ce groupe là par rapport à toi qui as été le grand capitaine de Montauban?
Ouais, ben, très compétiteur quoi. Tous les joueurs ont envie de gagner, il y a un groupe très étoffé, tout le monde a envie de gagner sa place, il y a une concurrence qui est saine. Et vraiment, ce qui fait la différence par rapport aux autres années, ce que je trouve, c'est vraiment l'état de l'envie de gagner de chaque joueur, quoi. Il y a vraiment une compétitivité à tous les instants, tous les moments, on lâche rien, chaque match. Ça, c'est très plaisant. Ouais. Il faut continuer à être compétiteur comme on l'a été pour arriver avec ce même mental sur les phases finales, quoi. Et rien lâcher à chaque match, parce que chaque match de phase finale, chaque équipe va être différente, il va falloir s'adapter et il va falloir savoir gagner jusqu'à la fin, quoi. Voilà.
Puis bon, tu dois confirmer, mais c'est vrai que vu comment tu te donnes, t'as vraiment envie d'être titulaire pour ces phases finales qui arrivent là.
Oui, mais bon, je vous dis, moi au départ, je suis venu, voilà, parce que il y avait un peu de casse, donc je suis venu pour dépanner, moi, peu importe, je vous dis honnêtement, moi je veux c'est qu'on gagne, et qu'à la fin, que le club y monte, bah, ça fait 3 ans, et voilà, j'ai envie de voir Montauban en Pro D2, c'est ce que le club mérite, tout le monde travaille pour ça, bénévoles, dirigeants, joueurs, entraîneurs, il n'y a pas moyen, il faut monter, là, c'est sûr et certain.
Bon, merci, bravo encore, merci David.
Voilà. Donc David Penalva, hein, c'est ça, hein, Jean-Claude.
Ouais, c'est David Penalva qui jouait deuxième ligne. Est-ce que troisième? Je vous donne aussi quelques petits résultats de Fédéral 2 et de Fédéral 3. Alors en Fédéral 2, des clubs qui nous concernent, Millau a été perdre à l'E4 et se retrouve cinquième du classement. Attention, c'est les quatre premiers qui sont qualifiés. Le Racing de Montauban est allé jouer chez le Cador Bergerac et a pris une belle raclée, 47-6. Le Bergerac, ben, caracole en tête, c'est un peu comme le Montauban de la Fédéral 2, Bergerac. Et le Racing est quatrième et Castel-Sarrazin recevait Sarlat sur sa pelouse. Castel a gagné de justesse 15-13 et Castel se conforte sa troisième place. En poule 7, Groyer continue son petit chemin vers la montée en Fédéral 1. Groyer a gagné contre Florence 21-9. Groyer est premier. Le match de Gaillac a été remis. Et en Fédéral 3, Cahors a battu par 28-5 Mauriac. Carmo est déjà rétrogradé en honneur parce qu'il vient de reperdre sur sa pelouse par 13-36 contre Userche. Donc c'est foutu. Et le Lévesoux garde sa troisième place, même sans jouer, parce que le match a été remis, comme le match de Nègrepelisse. Voilà pour les fédérales et le rugby.
Eh ben, un petit peu de musique et puis on passe ensuite à l'handisport avec Jennings Darcourt et Benjamin
Louis.
Et Benjamin Louis de Cœur Handisport. À de suite. dommage qu'il neige pas avec un morceau pareil.
C'est le nouveau Daft Punk, ça s'appelle Instant Crush.
C'est joli comme tout ça.
C'est sympa.
Ouais. L'handisport, la suite avec, avant de parler handisport, un petit peu de résultats de foot, David. Ou Jean-Claude, je ne sais
pas. Eh bien oui, on jouait la 17e journée de CFA et les Ruthénois sont allés arracher le match nul à Béziers. Des Ruthénois qui étaient amputés de Alceni Camara, de Faviana et de Oliveira, tous les trois défenseurs qui étaient absents. On a noté une bonne rentrée de Jérémy Roumégous à l'arrière qui a compensé un peu la perte de ces joueurs. Et les deux centraux, arrière-centraux, Bardi et Inzerio, ont fait un beau match. Et surtout, Chebac, qui a défendu et attaqué. Ce garçon s'est très bien entendu avec le nouveau ruthénois, Mahaya, qui a fait un bon premier match avec ses nouvelles couleurs du Rodez Aveyron Football. Et les Ruthénois se retrouvent à la 9e place. Il est vrai qu'ils ont été amputés d'un point par à la célèbre des GNC. Et ils ont un match de retard. Donc, 9e position. Les Ruthénois devront confirmer le week-end prochain face à Valence à Polignon.
Et puis on avait aussi les Rafettes ce week-end.
Nos Rafettes se sont qualifiés pour la Coupe de France, pour le 8e de finale de Coupe de France, en allant battre Muret à Muret. Ce n'était pas gagné. Les Muretaines sont dernières en Ligue 1, en première division féminine. Mais un match de coupe, c'est spécial. Et les Ruthénoises sont revenues avec la victoire 3-2 en terre muretaine au stade Clément Ader. Et les Ruthénoises qui raffronteront de nouveau Muret, mais cette fois-ci à championnat et à Muret.
Voilà pour le football.
Alors en handisport, Jennings, et on va saluer aussi l'arrivée au passage parce que je pense qu'il est avec nous par téléphone, de Benjamin de Cœur Handisport. Salut Benjamin.
Salut à tous.
Salut Benji.
Vous allez bien?
Ah bah écoute, oui, ça va plutôt c'est... pas mal. Allez, les premiers résultats.
Alors, eh bien, en régional, tout à l'heure on parlait du rugby qui allait très bien du côté de Montauban, mais c'est exactement pareil en rugby fauteuil. Montauban, 5 matchs. 5 victoires avec cette belle victoire ce week-end face à Saint-Jory, 56-40. Alors même si c'est encore une victoire, mais cette fois-ci ça a été plus difficile que prévu, avec quelques petites fautes de main des Montalbanais qui n'arrivent quand même pas souvent cette saison. Alors il faut dire aussi que le match était quand même très accroché. Saint-Jory est quand même une équipe très joueuse, qui n'était pas le cas en début de saison. Les Montalbanais, donc finalement, se sont sortis grâce à leurs attaques fulgurantes. Ça leur permet, ben voilà, de faire des contres et de jouer dans le dos des adversaires, ce qui leur permet de mettre des essais et également de leur grande solidarité, hein, parce que même si le match était difficile, plusieurs fois les Montalbanais se sont fait rejoindre au score à 2-3 points d'écart et grâce à la solidarité des joueurs, ils ont réussi à remettre le match dans leur sens en appuyant sur les points faibles de l'adversaire. Et finalement, ils ont réussi à l'emporter. Donc, les Montalbanais se hissent à la 2e place du podium, derrière Anglet et juste devant Perpignan qui est 3e à un match à moins. Donc, le podium est acquis pour la 5e journée, mais... il faut espérer que Montauban continue sur cette voie-là. Et d'ailleurs, les Montalbanais font une très bonne performance parce qu'il y a deux joueurs qui sont en équipe de France et qui vont recevoir un trophée jeudi soir à l'Urythmie car ils ont été champion du monde en équipe de France en juillet dernier. Donc, bravo à eux. C'est quand même, on a quand même quelques petites pépites à Montauban. C'est quand même super. Et puis en basket fauteuil, en National A, donc c'est la première division de basket fauteuil, le duel Bordeaux-Toulouse continue, puisque cette fois-ci, c'est Toulouse qui s'impose contre Strasbourg et Bordeaux qui s'incline contre Meaux. Donc cette fois-ci, ben, c'est Toulouse qui reprend la 4e place et Bordeaux la 5e. Donc le mano à mano continue. C'est à Montauban et à côté... Et que ce soit en basket fauteuil et en rugby fauteuil, il y a du suspense dans la région, c'est super.
Oui.
Et donc, voilà, ben on va lancer Benji.
Ah bah oui, lançons Benji, allez. Pas trop loin pour qu'il se fasse pas trop mal.
Je vais continuer un peu sur la lancée effectivement du basket pour la nationale 1. Moi, j'assistais samedi soir au match Capsa face à Mélan. En fait, ils étaient 8e et 10e pour Capsa et c'était le match crucial pour éviter la descente pour Capsa. Et ils ont gagné ce match sur un score plutôt serré, mais ils ont mené tout le match, donc bravo à eux parce que ce match-là, s'il y avait une défaite, c'était déjà terminé. Mais du coup, ils restent dans la course, donc il y a trois équipes qui vont se battre jusqu'à la fin. Il reste 4 journées encore. Donc maintenant, Capsa et Strasbourg pour la défense. Voilà. Sinon, pour les skis, donc comme chaque semaine. Donc là, on en a terminé avec les épreuves de Coupe du Monde. Donc cette semaine, il n'y a pas vraiment de résultats. Par contre, ils sont en stage de préparation, la dernière semaine de préparation vraiment. Donc ils vont être à Chamonix cette semaine. Donc tous ensemble, sachant que le départ est bientôt. Ils vont partir le 3 mars à Sochi. Et moi, je vais avoir le privilège en fait de passer 48 heures avec eux. En fait, je pars demain. Donc je vais être à leur côté pour assister à ces derniers jours de préparation intense. Donc si jamais vous, l'équipe ou les auditeurs, vous avez des questions à poser à nos athlètes français qui vont partir, n'hésitez pas. Moi, je pourrais poser ces questions en direct. Donc je pense que ça va être très sympa. Et sachant que la semaine dernière, j'ai annoncé qu'il y avait l'équipe officielle avec le nombre de personnes qui partaient. Effectivement, il y a une 14e personne qui s'est rajoutée. Donc, c'est Cecilia Nordez Cervello. Donc, elle va faire du snowboard. Donc, c'est la première fois aux Jeux Paralympiques qu'il va y avoir des épreuves de snowboard. Donc, du coup, on va avoir un homme et une femme. Donc, c'est super parce qu'on va être représenté dans les catégories. Donc magnifique pour l'équipe de France. Donc c'est en plus qu'il y a une chance de médaille par rapport à ses résultats en Coupe du Monde, même si elle a fait une courte préparation, c'est possible. Donc magnifique.
Bon, écoute, lundi prochain tu nous raconteras un peu comment ça s'est passé.
Oui, je vais pouvoir vous raconter ça. Donc moi, je veux bien en profiter. Donc même vous, si vous avez des questions par rapport à leur poser ou autre, n'hésitez pas.
Tu nous raconteras surtout comment se fait cette préparation. Voilà. Surtout qu'il n'y a pas de neige à Sochi, donc ce qu'il faut.
elle fonde surtout à Sochi là.
Mais c'est ça.
C'est vrai que ça pose quand même des questions. Hein. Moi, pour ma part, je commence à m'en poser un petit peu parce que c'est vrai que ça devient problématique. Et j'ai un peu peur d'arriver en mars et de voir comment ça va se passer parce que déjà que c'est un peu compliqué pour les valides de se préparer, mais alors pour des épreuves en e-sport c'est encore plus compliqué, donc mais bon, on verra.
Apparemment ils ont stocké de la neige, mais est-ce qu'ils en ont stocké assez pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques? C'est ça le truc.
Le problème c'est qu'en fait ils ont déjà tapé dans le stock en fait, et ils ont déjà tapé durement dans le stock, donc et sachant que le stock c'était pour, je pense, jusqu'à la fin des Paralympiques, donc je ne sais pas. J'ai du mal à imaginer, mais bon, espérons qu'ils fassent le nécessaire, parce que apparemment les températures vont pas baisser d'ici là. Donc.
Et imaginons s'il y a plus de neige en plein milieu des JO, comment on fait?
Ça va être compliqué. On rentre tout le monde. Bon, écoute, en poursuivre Benjamin sur Internet, c'est simple, c'est sur la page Facebook Cœur Handisport.
Tout à fait.
À lundi prochain.
Bah oui, bonne soirée à vous.
Bonne soirée.
Salut. Tout petit peu de musique et puis justement on revient sur Sochi un peu là tous ensemble, voir qui c'est qui suit le curling.
popular sketch vibes. My woman's been telling me lies about other men, about where she's been hanging. Why lies you try?
Ça c'est bien sympa, ça s'appelle Mac Frost et c'était le titre White Lies et nous avons retrouvé Rodez.
Alors bah très bien, on a retrouvé Rodez, on n'a pas perdu Kailus, Jennings est toujours présent. Moi j'aimerais savoir les gars, sur les 4 petites dernières minutes qui nous restent, comment vous vivez ces JO. Pour ma part, c'est une petite fenêtre comme ça au bistrot d'en bas. Il faut savoir que au 5 boulevard Garrison à Montauban, juste en face, on a un petit bistrot qui est assez sympa, qui a un bar tabac. Et le matin, juste avant de venir, j'ai eu boire un café et généralement sur l'écran, je regarde comme ça le curling. Ça dure jamais très longtemps, c'est tout pour moi. Voilà, je suis pas plus les JO que ça. Et vous, comment vous les vivez ces JO, Jean-Claude?
Moi je passe un bon moment devant la télévision et j'aime bien tout ce qui est sport, donc je me régale. Mais on vient d'avoir 2 médailles de bronze, mais on peut dire qu'on en a une avec un bol gros comme une soupière, hein, carrément. Hein.
C'est peut-être puisque pas tant de bol que ça, elle met la pression aussi à même temps, Jean-Claude.
Deux concurrentes pour que la Française obtienne sa médaille.
Mais pourquoi vous dites ça? Alors, moi qui n'ai pas, qui n'ai rien.
Parce qu'elle était quatrième ou cinquième lors de la course, un snowboard cross, et les deux qui étaient devant elle sont rentrés dedans, et du coup, elle a profité de cette chute pour filer. Mais en même temps, elle était derrière, et elle a mis la pression aussi un petit peu. Elle a eu de la chance, certes, qu'elle se casse la gueule, sinon elle était quatrième ou cinquième.
Mais c'est en mettant la pression qu'elle se casse la gueule, les autres, évidemment.
Eh ben, ça participe au jeu aussi.
David Fabier?
Ouais, voilà, je trouve que c'est logique, c'est un sport, on le sait, où les chutes sont assez quand même courantes dans ce sport, donc voilà, elle était là, elle a profité de l'erreur. Non. Moi je suis ces JO, comme je peux, je les trouve un peu nuls ces JO, dans le sens où il y a pas de neige, donc je trouve ça un peu naze. Le soir, le petit débrief sur la 3 avec notre ami Gérard Rolls.
Il essaie de créer la polémique, quoi.
Chez Gérard Rolls, il crée la polémique?
Non, les deux, je sais pas comment il s'appelle là.
Le soir, c'est Gérard Rolls.
Ouais, non, c'est Montiel et puis Luya.
Laurent Luya.
Ouais. Alléluia, ouais, alléluia.
Alléluia. Et toi, Jennings, comment tu les vis?
Je suis de loin aussi. C'est vrai que j'essaie quand même de m'informer par rapport aux performances de l'équipe de France. C'est vrai que pour le moment, il n'y a pas tant de médailles que l'on souhaitait et peut-être qu'on attendait aussi. Mais je suis quand même... de loin, mais
qui c'est qui s'y colle dans l'équipe là, de lundi sport, qui c'est qui s'y colle exprès quoi pour les regarder?
Moi je suis tout, je me suis même tapé du curling en Angleterre Canada féminin hier après-midi, moi tout ce que je peux je regarde.
T'es un dingue.
J'adore les Jeux Olympiques d'hiver, j'adore. Les 47e en bobsleigh de pays pas possible, tu sais pas que ça existe, je regarde toujours.
Moi je suis tombé à nouveau sur ceux de la Jamaïque là qui se sont cassés la figure, les pauvres.
Eux je les ai loupés, tu vois. Parce que j'essaie de tout regarder mais je vois pas tout.
Au moment où je les regardais, il y en avait un, il avait la visière cassée, ils ont pas eu de chance visiblement, hein. Et puis alors
d'ailleurs un peu de brouillard.
Et ils étaient quand même assez, ils sont costauds les gars. Il faut être lourd non pour jouer du bobsleigh.
Il faut être puissant surtout.
Il faut être lourd, avoir de super cuisses pour pousser au début, puis être lourd parce que comme c'est une pente, plus t'es lourd, plus l'objet prend un peu de vitesse quoi.
Et pourquoi tu me regardes en disant ça?
Jean-Claude Vigreau.
C'est sympa à regarder, moi. Je regarde du matin au soir, hein, tout ce qui passe, je le regarde. Je suis un peu comme David. Je suis très curieux au niveau du sport et ça me plaît. Mais quand on dit qu'on n'a pas assez gagné de médailles, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Ce sont des hommes. Hein. C'est pas le jour de la gagner, ils la gagnent pas. Hein.
J'ai pas dit
une grille, une médaille, ça se gagne. Je crois que c'est plutôt dans l'esprit qu'on gagne une médaille que le jour de la rencontre. Quoi.
Jean-Claude Vigreau, est-ce que tu peux expliquer à Jennings, qui n'a rien compris, les règles du curling?
Alors le curling, c'est un peu comme à la pétanque. Il y a une cible qui est sur le sol, en bout de la piste, et on lance des gros pavés de pierre. C'est du basalte, je crois.
Granit.
Du granit, voilà. Et il faut mettre ces boules de granit dans la cible. Et le cœur de la cible, c'est un peu le but en fait à la pétanque.
Et on tire
aussi en lançant son pavé très fort pour dégager tout ce qui gêne devant, et pour accélérer la course de cette pierre, on balaye devant, on réchauffe la glace, c'est-à-dire qu'on fait, on crée de l'eau sur la surface pour que ce pavé aille plus vite.
D'accord. Et alors, d'accord, en ce moment même, sachez qu'il y a des... On joue encore au curling, hein, c'est les femmes qui jouent.
Oui, c'est une partie qui dure des heures et des
la
heures.
La Chine contre la Suisse. La Suisse bat la Chine 6 points à 4. La Grande-Bretagne contre le Danemark, 7 à 4. La Corée contre le Canada, c'est le Canada qui gagne 7 à 4. Et la Suisse contre le Japon mène 5 à 4 en ce moment même. Donc si ça vous intéresse, le curling, c'est en ce moment.
Non, mais moi, ce que je comprenais pas, c'était passer le balai que...
Mais ouais, c'est pour,
qu'elle,
c'est pour la faire avancer plus vite.
Oui,
en
oui,
fait.
Voilà.
Non, c'est pas pour faire le ménage. C'est pour réchauffer la glace pour que le pavé aille plus vite.
Ok.
Voilà, messieurs, je vous donne rendez-vous à lundi prochain pour une nouvelle édition de Lundi Sport avec, c'est sûr, enfin j'espère, beaucoup moins de... problème technique qu'aujourd'hui, puisque nous allons upgrader notre système en entier d'ici lundi prochain, et ça va marcher, ça va marcher.
On croise les doigts.
Allez, salut,
ciao.
Et nous, réunions,